18h30 ici à Paris, on va parler 45e et 47e président des États-Unis ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Osoui.
Et ce président est le même homme, c'est Donald Trump, vainqueur il y a 6 jours de l'élection présidentielle, comme il y a 8 ans. Mais le Trump 2024 est-il le même qu'en 2016? C'est notre question ce soir. Alors que le républicain mène au pas de charge la formation de sa future équipe, qu'est-ce que les premières nominations disent de la ligne attendue du prochain locataire de la Maison-Blanche? En quoi le contexte est-il différent? Qu'est-ce que cela augure? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, mes deux invités ce soir, Ludy Vingili à mes côtés en studio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en histoire, directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès. Votre ouvrage, La Révolution conservatrice aux États-Unis, de l'avortement au droit de vote, la démocratie pervertie. Notre deuxième invité est en ligne avec nous. Bonsoir Paul Shore.
Bonsoir.
Historien, maître de conférences en civilisation américaine à l'Université Paris Cité. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Pour commencer, Ludy Vingili, est-ce qu'on peut, avec vous, évoquer et commenter les premières nominations de cette future administration Trump? Les noms se succèdent au pas de charge de Dizé depuis quelques jours, même s'ils ne sont pas tous officiels. Est-ce qu'on peut citer les principaux?
Oui, on a quelques noms qui sont sortis. Le premier, ou à minima un des tout premiers, c'est celui de Susie Wiles, qui a dirigé la campagne victorieuse de Donald Trump et qui a été nommée directrice de cabinet. C'est un poste extrêmement important puisque c'est elle qui va piloter tout ce qui se passe à la Maison-Blanche et gérer les interactions avec le Congrès également pour veiller à ce que les projets de loi soient menés de manière favorable pour le locataire de la Maison-Blanche. C'est quelqu'un qui est pas forcément mal perçu par les démocrates parce qu'elle n'a pas le profil qu'on a pu voir dans une partie des locataires précédents de cette position lors de la première administration de Donald Trump, avec d'ailleurs des occupants qui ont énormément bougé. Donc là, il est possible que Susie Wiles reste en fonction, auquel cas ça serait un premier indicateur de changement entre numéro 45 et numéro 47, un peu de stabilité par opposition à une administration extrêmement instable en 2016. Mais ce qui pourrait être vrai pour ce poste-là ne sera pas nécessairement pour l'ensemble des autres postes.
Parce qu'il y a une valse, effectivement, des nominations, des démissions en cascade. Ça, c'était
la caractéristique principale, peut-être, oui, du premier mandat de Trump.
Ouais. Ça, c'est un premier renseignement. On parle aussi déjà d'une ligne plus dure. Est-ce qu'on le ressent dans ces premières nominations?
Il y avait eu, lors de l'administration mise en place en 2016, une ligne relativement dure, mais il y avait presque du côté des Républicains en 2016 une surprise à être élu. Et donc, ces nominations n'étaient pas préparées. Ouais. Alors que là, Donald Trump et son entourage proche sont prêts. Donc, ils ont des noms.
Ça change quoi d'être prêt?
Ça change beaucoup de choses.
Dans le choix de l'équipe
Ça change beaucoup de choses dans le sens où on n'a pas à chercher.
Ouais,
on a déjà les noms qui sont prêts, on a la liste. Et vraisemblablement, on a déjà commencé à discuter des possibilités avec les personnes. Contrairement à la première administration où, notamment pour les positions qui nécessitaient confirmation au Congrès, il avait fallu des mois et des mois à Donald Trump pour les pourvoir, ce qui empêche dans la foulée à l'administration d'être efficace et de mettre en œuvre son programme.
On peut citer Marco Rubio,
oui.
Donc le sénateur qui devait être annoncé, alors ça va dans le sens aussi d'une ligne plus dure, il devrait être annoncé au poste de secrétaire d'État, et lui il est tenant d'une ligne dure face à la Chine et à l'Iran, ça c'est pour la politique étrangère des États-Unis. Michael Waltz, élu de Floride, qui est pressenti au poste de conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche.
Là aussi, c'est une ligne très dure.
Ouais.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, en revanche, en anecdote sur les conséquences potentielles de ces nominations, c'est qu'on se dirige, on pourra y revenir, vers un Donald Trump qui dispose de la majorité au Sénat, qui disposera vraisemblablement d'une majorité à la Chambre, mais très courte, potentiellement 221-222 sièges pour les Républicains, quand la majorité est à 218. Et dans la liste des nominés qui sont déjà sortis, nous avons Mike Waltz et Élise Stefanik, qui sont tous les deux des députés. Et les députés ne peuvent pas être remplacés. S'ils quittent leur poste, il faut une élection spéciale. Donc tout député qui est nommé, qui prend un poste dans l'administration de Donald Trump, ça fait une personne en moins dans la majorité très très mince des républicains au Congrès.
Est-ce qu'il a, ce sera ma dernière question avant d'entendre Paul Scholl, est-ce qu'il a moins ou plus les mains libres qu'en 2016 ? Ou est-ce qu'il ne les avait pas tout autant déjà en 2016 ? Vous évoquiez la majorité au Congrès.
Oui, il n'avait pas autant les mains libres. Et surtout, on disait qu'il était beaucoup moins préparé. Là, il a une idée très précise de ce qu'il peut mettre en œuvre. On a évoqué lors de la campagne le projet 2025, rédigé par un think tank ultra-conservateur, la Fondation Heritage. Ce projet 2025, c'est une liste de dispositions qui sont prêtes à être mises en œuvre. Ouais. De plus, Trump 47 par rapport à Trump 45 a une certaine expérience de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, le Muslim ban, l'interdiction d'immigration de la part venant de pays musulmans. Donald Trump a mis à peu près 2 ans à trouver une formulation de son projet qui fonctionne, avec des allers-retours avec la Cour suprême. Désormais, il sait ce qui peut fonctionner.
Paul Scholl, que vous inspirent ces premières nominations de la future administration Trump 47, pour reprendre les mots de Ludivine Gilly, 47e président des États-Unis ?
Mais effectivement, je crois que la différence avec la première administration Trump, c'est qu'il a une équipe qui est aussi plus cohérente, idéologiquement plus cohérente. Au début de son premier mandat, on a parfois eu une impression d'improvisation. On a dit que Trump lui-même avait été surpris d'être élu, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y avait un certain amateurisme. Là, ils ont maintenant l'expérience. Et une chose qu'on voit se profiler dans les noms qui circulent, ceux qui ont été officiellement annoncés et puis les autres, c'est aussi que Trump s'entoure de gens qui lui sont personnellement très loyaux, qu'il avait mal vécu, en fait, sa première expérience de président, d'avoir des responsables de son administration, et surtout des sénateurs qui le contredisent, qui ne fassent pas, n'aillent pas toujours dans le sens des politiques qu'il voulait, qui l'obligent à négocier. Et là, il y a une autre différence qui joue pour lui, c'est que les sénateurs, s'ils vont quand même, je pense, maintenir une certaine forme d'indépendance ou d'autonomie par rapport au pouvoir exécutif, ils sont quand même beaucoup plus trumpistes, ils sont beaucoup plus soumis à Trump. Il ne contrôle pas entièrement les sénateurs républicains. Il reste quand même certains qui ont leurs propres objectifs. Mais je pense qu'il ne va pas se retrouver dans la même situation qu'il a connue en 2016. Normalement, les postes où on a besoin que le Sénat confirme les nominations à la tête de l'administration, ça devrait se passer mieux. Ouais. Parce que, effectivement, je pense qu'une partie des sénateurs, on leur a déjà parlé des personnes en vue. En fait, ils se sont préparés pour gagner cette fois. Ce qui semble-t-il n'était pas le cas en 2016.
D'un mot, et je pense que ça résume ce que vous dites, il est moins, voire plus contesté en interne au sein du Parti les Républicains comme il l'était il y a 4 ans. Et ça lui donne les mains encore plus libres.
Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu ce moment juste après l'élection de 2020 et surtout l'assaut sur le Capitole en janvier 2021, où toute une partie du Parti républicain l'a critiqué ouvertement. Et les mêmes, aujourd'hui, soit ont quitté le Sénat, ont quitté la politique, mais dans la plupart des cas sont toujours là, mais sont devenus des loyalistes de Trump. Et ils sont devenus des loyalistes de Trump parce qu'ils ont fait l'expérience que malgré leurs divergences, si eux voulaient être réélus dans leur circonscription, dans leurs États, dans le cas des sénateurs, il fallait prêter allégeance à Trump parce que Trump a une partie de l'électorat qui est loyale non pas au Parti républicain, mais à Donald Trump. Et c'est ce qu'il attend de beaucoup de gens qui vont travailler pour lui. C'est-à-dire qu'on pense qu'il n'a pas une conception du tout collégiale du gouvernement, mais que ses conseillers doivent trouver les moyens de mettre les choses que lui aura, de mettre en œuvre les choses que lui aura décidées.
Ludivine Gilly, est-ce qu'on peut dire que Donald Trump est plus légitime ? cette année qu'en 2016.
Oui.
Et en quoi?
Alors...
Alors plus légitime parce que moins contesté en interne, ça on a dit.
Pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a question de légitimité de l'élection du président aux États-Unis du fait du vote indirect. Voilà. En 2016, Donald Trump a été élu avec une minorité.
Moins de voix que Hillary Clinton.
Voilà. Donc, en termes de légitimité, c'est quand même un peu délicat. Alors, légalement, il était le président. Mais sur le plan de la légitimité, c'est quand même contestable d'être président alors que 3 millions de personnes ont voté contre vous. Cette fois-ci, il a obtenu la majorité très nette des grands électeurs. Il a 312 grands électeurs contre 226 pour Kamala Harris. C'est absolument massif. La victoire au suffrage universel est beaucoup plus serrée que cela. On a vu les premiers résultats donner une grande différence de voix entre Donald Trump et Kamala Harris. Mais c'était avant que le décompte soit fini. Le décompte n'est toujours pas fini. La majorité des voix qui restent, des bulletins qui restent à dépouiller viennent de Californie, où on a un ratio qui est à peu près de 58% pour Kamala Harris. Donc l'écart va se réduire et on table maintenant sur moins de 3 millions de voix d'avance pour Donald Trump. Donc la victoire n'est pas aussi massive que ce qu'on a pu le dire au début, mais il dispose de la majorité du vote populaire, ce qui n'est pas arrivé depuis 20 ans à un président républicain. En ça, c'est davantage de légitimité. Et puis, là où ce sera plus simple pour lui de mettre en œuvre les mesures qu'il souhaite mettre en œuvre, c'est qu'il dispose de la majorité au Sénat et à la Chambre. Alors, dans les deux cas, la majorité n'est pas extrêmement large, ce qui limitera tout de même un peu sa capacité d'action, d'autant plus qu'au Sénat, comme Paul vient de le dire, il y a beaucoup de loyaux maintenant, mais il reste quand même quelques républicains qui pourraient avoir des difficultés à voter certaines mesures.
Donc Donald Trump, qui gagne le vote populaire à la différence de 2016, qui est beaucoup moins contesté au sein de son camp qu'en 2016. Et puis en 2016, troisième élément qui justifie peut-être une plus grande légitimité, les dirigeants étrangers faisaient massivement part de leur inquiétude à l'annonce de la victoire de Trump. Là, ils ont pris acte. Ça change beaucoup de choses.
Alors, pour moi, ça ne change pas la légitimité.
D'accord. Mais est-ce que ça change quelque chose dans ce à quoi pourrait ressembler le mandat de Trump?
Ça, je pense que oui. Le contexte est complètement différent. Les dirigeants dans l'ensemble du monde ont pris la mesure de ce qu'était Donald Trump lors de son premier mandat. Beaucoup d'entre eux espéraient probablement qu'il ne serait pas élu. Certains l'espéraient en revanche. Et donc tous maintenant, alors même si avec Donald Trump, en particulier sur le plan des relations internationales, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre, en tout cas, ils savent à quel type de personnage ils ont affaire. Et donc, ils sont eux aussi, à l'instar de Donald Trump, mieux préparés à ce deuxième mandat.
Paul Schork, c'est une question vaste, hein, mais qu'est-ce que cette légitimité qu'on a décortiquée augure de ce à quoi pourrait ressembler le mandat de Donald Trump ?
Alors, avant de vous répondre, il y a quand même une grosse question sur sa légitimité, c'est qu'il est le seul président qui a été condamné. Il a été condamné pour 34 infractions. Il a soutenu quelque chose qui ressemble à une insurrection en janvier 2021. Et donc, ça pose quand même un problème. Donc, je suis tout à fait d'accord que, bien sûr, électoralement, il est absolument légitime.
Mais maintenant, il est à la tête des institutions. Il est à la tête, je vous coupe, mais pour... Voilà, on est con. Oui. Il est à la tête des institutions qu'il a défiées.
Oui, et d'autant plus que là, les procédures judiciaires qui étaient encore en cours vont s'arrêter. Et lui-même, semble-t-il, va demander au ministère de la Justice de mettre en œuvre des actions pour le blanchir des accusations qu'il y avait contre lui. Mais je pense que quand même, pour un certain nombre d'électeurs aux États-Unis, y compris sans doute des électeurs qui ont pu voter pour lui, le fait qu'il ait été condamné en justice n'est pas quelque chose qu'on peut balayer si facilement. Et il y a quelques républicains réélus notamment la Chambre des représentants. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a, je crois, deux ou trois qui ont voté pour la destitution de Trump. Et ils sont quelques-uns qui sont toujours là. Parce que c'est vrai que la plupart des républicains qui ont voté la destitution de Trump ont pris leur retraite. Ils ont arrêté leur carrière politique ou ils ont été battus. Donc, il a institutionnellement beaucoup de pouvoir. Mais je pense que c'est quand même une tâche qui va rester.
Mais alors, je relance ma question, et c'était important de préciser ce que vous nous avez dit, mais qu'est-ce que, en tout cas, tous les éléments qu'on a évoqués disent de ce à quoi pourrait ressembler le mandat de Trump ?
Alors, la principale mesure hein, sur laquelle il a fait campagne, c'est l'arrêt de l'immigration et l'expulsion de millions d'immigrés irréguliers aux États-Unis. Et là, il a donné quelques signes que ça reste une priorité. Notamment, il a nommé à un poste important dans son administration Stephen Miller, qui était déjà là en 2016, ouais. Qui est une sorte de tête pensante idéologique de Trump sur la question de l'immigration. Ensuite, Steve Miller et les gens autour de Trump savent que dès qu'ils vont commencer à mettre en place ces mesures d'arrêter des milliers de gens, les détenir dans des camps, ouais. Les expulser...
La plus grande déportation de l'histoire américaine, pour reprendre les mots de Donald Trump.
Oui, bah, personne ne pense qu'il arrivera à déporter toutes les personnes qui sont présentes aux États-Unis de façon irrégulière, parce qu'on pense que c'est autour de 13 millions de personnes. Et en plus, les milieux d'affaires qui soutiennent aussi Trump, sans doute n'en veulent pas, parce qu'il faut imaginer ce que ça voudrait dire pour l'économie américaine, notamment des secteurs comme la restauration, le bâtiment, les services à la personne. Si on expulse parmi ces gens, la plupart de ces gens, les adultes travaillent, si on les expulse, ça fera une déstabilisation de l'économie des États-Unis. Et là, Trump rentrera en conflit avec certains de ses soutiens qui sont les milieux d'affaires et dont sont proches un certain nombre de républicains plus classiques. Mais je pense qu'en termes d'affichage, ils vont au début, donc quand ils vont vraiment pouvoir agir en janvier, faire des gestes assez spectaculaires sur la question de l'immigration. On verra jusqu'où ça ira. Je pense que personne ne le sait pour le moment parce qu'il y aura des contestations devant les tribunaux, qu'ensuite les gens vont s'apercevoir que c'est compliqué parce que déjà, jusqu'à maintenant, les expulsions du point de vue logistique, c'est pas si simple. Et puis ça pourra être aussi impopulaire, y compris auprès d'une partie des gens qui ont voté pour Trump. Et là, je pense notamment à ce qu'on a dit sur un certain nombre de gens de l'électorat qu'on appelle latino, notamment des hommes qui ont voté pour Donald Trump, quand il va commencer à expulser des gens qui peuvent être de leur famille ou leurs voisins ou des amis, ça va être un test assez sérieux sur sa popularité. Mais on peut penser que ça va être une des premières choses qu'ils vont faire, c'est la question de l'immigration.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Le 47e président des États-Unis est-il différent du 45e ? On parle évidemment de la même personne, Donald Trump, le candidat républicain, évidemment vainqueur il y a 6 jours de l'élection présidentielle américaine et qui mène au pas de charge la formation de sa future équipe. On a évoqué déjà des premiers noms officiels, officieux, qui devraient se confirmer avec mes deux invités. Paul Shore, que l'on entendait, historien, maître de conférences en civilisation américaine à l'Université Paris-Cité, et Ludivine Gili, docteur en histoire et directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès. Alors, Ludivine Gili, c'est intéressant, Paul Shore évoquait finalement la ligne de crête sur laquelle se trouve Donald Trump sur cette question de l'immigration, qui était son premier thème de campagne avec l'économie, et où, malgré finalement ses déclarations à la porte-pièce, il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est à l'image de son programme ? Et en cela, est-ce qu'il devrait, je ne sais pas si je dois dire le mot risque, de ne pas appliquer complètement son programme ? Et comment ça s'est passé en 2016 ? Est-ce qu'il a davantage appliqué son programme ?
En 2016, son programme était beaucoup plus flou qu'il ne l'était là, même si quand on regarde le programme du Parti démocrate pour 2024 et le programme du Parti républicain, on n'a pas vraiment à faire la même chose avec à peu près 90 pages du côté démocrate et puis 16 pages écrites comme un tweet sans fin ouais. du côté républicain. Mais
avec
malgré tout, il y a des éléments.
Qui est répété quasiment 20 fois dans le texte.
Exactement. Mais ceci étant dit, on peut voir un certain nombre de mesures qui ont été répétées, sans forcément avoir d'idées concrètes de la manière dont ce serait mis en œuvre. L'immigration, par exemple, c'est un bon exemple, puisque Donald Trump, pendant la campagne, a donné des chiffres extrêmement différents, parlant de 6 millions, de 10 millions, de 19 millions d'immigrés illégaux qu'il allait déporter. Et ce sera ce qu'il fera le premier jour de son mandat, a-t-il dit, mais concrètement, il est absolument impossible de mettre tout ça en œuvre le premier jour. Donc, c'est juste un exemple, mais c'est la même chose sur la plupart des sujets. Est-ce que pour autant il ne sera pas en mesure de mettre en œuvre son programme ? Je n'irai pas jusqu'à dire cela, parce qu'il pourra en mettre en œuvre une partie. Ouais. Et on le voit sur toute une série de domaines, d'autant plus que lors de son premier mandat, il a nommé et fait confirmer par le Sénat trois juges très conservateurs à la Cour suprême qui, depuis, ont rendu un certain nombre de décisions qui permettront plus facilement à l'administration Trump numéro 2 de mener certaines mesures de leur programme, par exemple en termes de dérégulation, protection de l'environnement. La deuxième chose qu'il avait mentionnée pour le premier jour de son mandat, au-delà de déporter des millions de personnes, c'était « drill, baby, drill ». Donc extraire du pétrole. Et ça, par exemple, dans les zones protégées et autres. Non. C'est le genre de choses qui seront rendues plus faciles, de la même manière que la discrimination contre toute une série de catégories de personnes, parce que la Cour suprême a rendu des avis qui rendent ces mesures plus faciles à mettre en œuvre.
Mais sur des propositions comme mettre fin à l'inflation, ça c'était son point numéro 3. Comment il va procéder, ou le fameux régler la guerre en Ukraine en 24 heures.
Ça fait partie des mesures qui seront effectivement complexes à mettre en œuvre, surtout que concernant l'inflation, quand on regarde son programme économique qui consiste principalement à réduire les impôts et à imposer des droits de douane extrêmement élevés, ça n'est pas forcément de nature à réduire l'inflation. Donc sur ce genre de dispositions, effectivement, on a des doutes qu'il réussisse à mettre en œuvre ce qu'il avait annoncé. Non. En revanche, il y a énormément de domaines qui pourront être extrêmement problématiques pour certaines parties de la population et sur lesquels il pourra faire des choses. On pense à l'éducation, par exemple. Une de ses propositions, c'était de supprimer le ministère de l'Éducation. Sur conseil de la Fondation Heritage du projet 2025. Le ministère de l'Éducation aux États-Unis n'a pas du tout les mêmes fonctions qu'en France. Mais dans le domaine de l'éducation, il y a énormément de choses qu'il peut faire. Et une des choses qu'il a mentionnées, c'est par exemple réviser la manière dont les universités sont accréditées et retirer leur accréditation. Donc, les fonds fédéraux à toute université qui ne respecterait pas ce que l'administration souhaite qu'elle respecte en termes de diversité, en termes de programme, etc.
Ça montre un plus grand durcissement du pouvoir. À l'image de... on parle beaucoup de la future administration. Est-ce qu'il va y avoir une purge parmi les fonctionnaires ? Il y a ce fameux audit qui a été confié à Elon Musk, hein, son grand soutien, le milliardaire Elon Musk. Un audit sur la réforme de l'État fédéral aux États-Unis.
Il y a fort à parier que Donald Trump tentera et réussira probablement au moins en partie à nettoyer partie de l'administration fédérale. Une des dispositions qu'il avait prises avant de quitter le pouvoir, mi-octobre 2020, c'était de créer ce qu'il a appelé Schedule F, qui était une nouvelle catégorie de fonctionnaires dans laquelle il comptait mettre. Il y a à peu près 2 millions de fonctionnaires aujourd'hui aux États-Unis. À peu près 4 000 sont issus de nominations politiques, mais tous les autres sont des fonctionnaires classiques, si on peut dire, c'est-à-dire qui sont spécialistes d'un domaine et qui font leur travail parce qu'ils sont compétents dans le domaine. Et Donald Trump, avec ce Schedule F, comptait faire basculer plusieurs milliers de fonctionnaires, voire dizaines de milliers, dans une catégorie qui permettrait de les renvoyer très facilement. Et ça permettrait d'enlever des rangs des fonctionnaires tous ceux qui pourraient faire preuve de déloyauté vis-à-vis de l'administration et des mesures qu'ils souhaiteraient mettre en place.
Paul Shore, à l'image de la mesure que vient d'évoquer Ludivine Gilly, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les effets du mandat de Donald Trump, à partir de l'année prochaine, ces effets seront plus perceptibles sur le long terme que ne l'étaient ceux du premier mandat, où il s'était d'abord affairé à détricoter, selon le fameux mot, tout l'héritage Obama, sortir de l'accord de Paris, sortir de l'accord sur le nucléaire iranien?
Oui, alors c'est possible sur un certain nombre de choses, parce que en fait, Donald Trump, même s'il a sa personnalité assez unique, en fait, il est aussi le visage d'un mouvement conservateur plus profond dans la société américaine et de gens qui ont envie aussi de diminuer beaucoup l'importance de l'État fédéral, qui est un vieil objectif des conservateurs. Et il y a un certain nombre de choses où finalement, on peut considérer qu'effectivement, même sans Trump, si cette majorité-là est toujours au pouvoir, ils pourront continuer à faire les choses. Et d'autre part, comme le disait Ludivine Gilly, il a aussi l'idée de transformer la fonction publique, transformer un certain nombre de choses aux États-Unis de façon assez brutale et en s'embarrassant peu de la séparation des pouvoirs. Et là, les décisions de la Cour suprême aussi qui ont été rendues ces dernières années vont l'aider parce que c'est des décisions qui sont plus favorables au pouvoir exécutif. Et ce qui est aussi la conception du pouvoir qu'a Trump, que la séparation des pouvoirs n'est pas vraiment quelque chose qui est dans sa culture, si on peut dire. Et c'est possible que la transformation du gouvernement, en fait, des États-Unis soit assez profonde. D'autant que les démocrates n'ont pas forcément, feront pas forcément la même chose quand ils reviendront au pouvoir. Ce qu'on a vu souvent, les démocrates ne vont pas forcément faire la même purge. Parce qu'à un moment, les démocrates regagneront les élections, puisqu'aux États-Unis, on a ces mouvements de balancier. Peut-être même dès les élections de mid-term, dans 2 ans, ils pourraient reprendre la majorité dans l'une ou l'autre des chambres du Congrès. Mais en tout cas, oui, je pense qu'un certain nombre de transformations structurelles, et notamment de la façon dont fonctionne le gouvernement aux États-Unis, le gouvernement fédéral, sont sur la liste des priorités de Donald Trump. Et pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de républicains, pas forcément trumpistes, qui seront derrière lui.
Et Ludivine Gilly, d'un mot, c'est une question vaste, mais il nous reste une minute, mais à quoi va ressembler la démocratie post-second mandat de Trump, la démocratie américaine?
C'est une grande question, effectivement. Tout va dépendre de la latitude dont il dispose in fine pour mettre en œuvre ce qu'il a l'intention de mettre en œuvre. Et il y a un point qui me paraît important à soulever, c'est qu'il a nommé 3 juges à la Cour suprême lors de son premier mandat. Il y a 2 juges actuellement conservateurs, ultra-conservateurs, qui sont des septuagénaires. Et la question, c'est ces 2 juges-là vont-ils démissionner pour permettre à Donald Trump d'en nommer de nouveau qui serait confirmé par un Sénat républicain. Et là, ça promet une majorité ultra-conservatrice à la Cour suprême aux États-Unis jusqu'en 2070 à peu près. Donc pour la démocratie, ça n'est peut-être pas une très bonne chose.
Et ça va dans le sens que disait Paul Shore, à savoir qu'il faut attendre à ce que les transformations soient très profondes à l'issue de ce second mandat de Donald Trump. Merci beaucoup à vous deux, Ludivine Gilly, docteur en histoire, directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès, et Paul Shore, historien, maître de conférences en civilisation américaine à l'Université Paris-Cité. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Claude Battista à sa réalisation. Bientôt 19h ici à Paris, merci d'être à l'écoute de RFI. Dans 30 minutes, ce sera l'heure d'Afrique Soir, ça tombe bien, le présentateur Victor Morier est déjà en studio à côté de nous.
Bonsoir
Victor.
Romain.
Au programme ce soir, Victor.
Eh bien, au programme, on reparlera bien sûr du Sénégal et de la tension qui est à son comble après l'appel à la vengeance prononcé par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui dénonce des agressions subies par ses militants durant la campagne législative. Les élections sont dans 5 jours. On va revenir aussi sur l'embargo sur les diamants centrafricains qui pourraient être levés à l'issue du processus de Kimberley en ce moment. Et puis le dossier de cette édition, on reviendra sur la victoire écrasante du Premier ministre, nouveau Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, qui vient d'être nommé.
Eh bien, merci Victor Moria. À dans 30 minutes sur RFI.